Bonjour à tous. Ce matin, nous allons étudier ensemble les recommandations de Jésus à ses disciples. Alors, si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans l'Évangile de Luc au chapitre 17 et nous allons lire les 10 premiers versets. Jésus dit à ses disciples : Il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou que de provoquer la chute de l'un de ses petits. Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le, et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vient te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente notre foi. Si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là : Arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Supposons que l'un de vous ait un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous : Viens vite, assieds-toi à table. Ne lui direz-vous pas plutôt : Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé ? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites : Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Prions. Seigneur, nous te demandons cette grâce de pouvoir comprendre ta parole, de pouvoir l'appliquer à nos vies. Seigneur, ouvre les yeux de notre compréhension, les yeux de notre cœur. Seigneur, permets-nous non seulement de comprendre, mais vraiment de vivre, afin que nous puissions t'apporter cette gloire que tu mérites dans le nom de Jésus. Amen. Alors Jésus fait plusieurs recommandations à ses disciples. Et dans notre texte, il avertit ses disciples qu'il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute. Alors c'est un peu étonnant, mais la première recommandation que le Seigneur Jésus nous donne, en nous disant au verset 3 de prendre bien garde à nous-mêmes, c'est de ne pas causer la chute des petits. Alors la question qui se pose, mais qui sont les petits ? Dans la Bible, les petits, ça peut bien sûr être les enfants, mais souvent lorsque Jésus se réfère aux petits, il se réfère plutôt à l'attitude que le croyant doit avoir d'être petit, d'être dépendant de Dieu. Dans Luc au chapitre 10 et au verset 21 par exemple, le Seigneur Jésus prit son Père et dit, en louant le Père, « Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. » Donc, les petits sont compris comme étant des croyants, et des croyants peut-être qui sont encore mal affermis, des disciples qui sont jeunes dans la foi. L'histoire juste avant ce chapitre 17, c'est l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Et le pauvre Lazare, c'est peut-être l'exemple même de ce croyant, mais qui est démuni, qui est rejeté, qui est aux yeux de tous, et petit. Alors, le Seigneur Jésus nous dit qu'il va y avoir, de façon inévitable, des occasions de chute. Mais ça ne veut pas dire que, parce que c'est inévitable qu'il y ait des occasions de chute, cela dispense ceux qui vont causer la chute d'avoir des conséquences assez dramatiques. Faisons attention à nous-mêmes. Et cela, c'est un principe que nous retrouvons de nombreuses fois dans la Bible. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 10 de son épître, au verset 32, que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Donc, nous devons vivre de telle façon à ce que nous soyons une aide pour que les gens puissent rencontrer Dieu et non pas un obstacle pour qu'ils le rencontrent. Dans cette première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle des personnes qui sont faibles, des personnes qui sont des nouveaux croyants et qui sont perturbées que les viandes sacrifiées aux idoles et vendues sur le marché puissent être consommées par d'autres croyants. Et Paul dit, moi j'ai aucun problème à manger ces viandes, c'est juste de la viande. Mais si cela va causer un jeune croyant, un jeune chrétien, d'être déstabilisé et peut-être le causer de retomber dans l'idolâtrie, pour ne pas être un scandale vis-à-vis de ce jeune croyant, Paul se disait prêt à ne pas manger du tout de viande. Dans son épître aux Romains au chapitre 14 et au verset 13, il nous enjoint de la même façon de prendre la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. J'aime bien la note dans la Bible d'étude du semeur qui dit sur ce même passage de Romains au chapitre 14 et au verset 13, le scandale dans l'Écriture ne consiste pas à choquer le croyant sûr de son fait, mais à faire tomber dans le péché le croyant peu affermi ou à être un obstacle à sa foi. Pour un aliment, ça c'était l'exemple du premier siècle, va-t-on causer la perte de celui pour qui Christ est mort ? Il y a plusieurs façons de faire tomber les gens. D'abord en leur donnant un mauvais enseignement. C'était le problème des pharisiens. On pouvait aussi faire tomber les autres dans le péché en leur donnant un mauvais exemple. Et puis, bien sûr, on peut faire tomber quelqu'un en utilisant notre liberté en Christ, et cette liberté peut être mal comprise. Et c'était donc l'exemple de Paul et des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, peut-être on pourrait parler d'aujourd'hui, avec le cas du coronavirus. Qu'est-ce qui peut faire que les gens soient induits dans des mauvaises façons de se comporter et d'être? D'abord, s'ils ont des messages, s'ils écoutent des messages qui ne sont pas basés sur la réalité. Il y a toutes sortes de fausses informations qui courent à droite et à gauche, qui donnent de faux espoirs et qui peuvent ralentir la prise de conscience du danger de la situation. D'abord, donc, un faux message. Bien sûr, on peut aussi donner le mauvais exemple. Alors, en ce moment, on est assez en colère vis-à-vis des personnes qui profitent de ce temps où il n'y a plus besoin d'aller au travail pour certains, où il n'y a plus besoin d'aller à l'école, et pour aller surfer, ou pour faire du vélo, ou pour aller à la plage. Alors, il est vrai que si on va tout seul à la plage ou tout seul surfer ou faire du vélo là où il n'y a personne, c'est sûr qu'on ne va pas causer de problèmes particuliers. Mais l'exemple que l'on donne peut être mal compris. Notre liberté peut permettre à d'autres de se dire « c'est bon, on peut tous aller à la plage, c'est bon, on peut tous aller sur les routes ». Et à ce moment-là, on risque de contaminer d'autres personnes. Je peux continuer dans cette image. Certains s'imaginent que s'ils attrapent ce virus, pour eux, il n'y aura que peu de conséquences parce qu'ils sont en bonne santé, parce qu'ils sont jeunes. Mais leur liberté d'attraper le virus est aussi, malheureusement, la capacité, à ce moment-là, l'ayant attrapé, de le transmettre aux autres. Et si vous contaminez les autres, non seulement vous rendez la tâche plus difficile aux soignants, mais vous pouvez aussi causer la mort de personnes fragiles dans leur santé. Et ce que le Seigneur Jésus dit, c'est qu'il y a quelque chose encore plus grave que de causer la mort physique d'une personne. Il est encore plus terrible de causer la mort spirituelle d'une personne, la mort éternelle. Personne qui cause quelqu'un de chuter loin de Dieu, de s'éloigner de Dieu, risque que cette personne soit perdue pour toujours. Et le Seigneur dit donc, il vaudrait mieux pour une personne qui cause une telle chute de mourir dans ce monde avec une pierre de meule attachée à son cou plutôt que de provoquer la chute de l'un de ses petits. La mort, une mort terrible, une mort horrible dans ce monde vaudrait mieux que les conséquences éternelles qui sont encourues en ayant causé la chute de quelqu'un, la chute spirituelle de quelqu'un. Donc le Seigneur Jésus nous donne d'abord un avertissement. Ne pas être la cause du péché, ne pas être la cause de la chute de quelqu'un d'autre. Mais il nous dit, c'est bien de ne pas être la cause de la chute, mais aussi que nous devons nous préoccuper du péché. Et en particulier du péché dans un autre croyant qui aurait fait quelque chose contre nous. Et le but là, c'est d'amener cette autre personne, cet autre croyant qui se serait mis dans une attitude coupable vis-à-vis de nous, l'amener à la repentance et au pardon. Dans Luc au chapitre 18, nous avons l'explication de comment nous devrions nous comporter si quelqu'un se rend coupable à notre égard. Et donc, je vais lire. Dans Matthieu au chapitre 18, nous trouvons l'explication de comment nous devrions réagir si quelqu'un s'est rendu coupable à notre égard. Et donc, je vais lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, à partir du verset 15. Le Seigneur Jésus dit donc, « Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute affaire se règle sur les déclarations de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. » Là, on nous dit que le péché est assez grave et doit être réglé. On ne peut pas avoir ce péché dans le cadre de l'Église entre des croyants et une solution doit être trouvée. Et c'est tellement grave que si, eh bien, ce croyant qui a péché refuse la réconciliation, refuse d'admettre sa faute, eh bien, il doit être considéré de façon ultime comme étant, ne faisant plus partie de l'Église, comme étant plus un croyant à nos yeux. Comment doit-on reprendre le croyant qui a péché? Eh bien, nous avons plusieurs textes qui nous disent de le faire avec une attitude humble, de nous faire avec une attitude pleine d'amour. Éphésiens au chapitre 4, l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4, au verset 15, nous dit « dire la vérité dans l'amour ». Ce n'est pas juste asséner des vérités, mais il faut aussi le faire pour le bien de la personne. Le but n'est pas de l'écraser, mais de la ramener à Dieu. Dans Galates au chapitre 6 et au verset 1, l'apôtre Paul nous dit « Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. » Donc non seulement un esprit de douceur, mais aussi un esprit d'humilité, en sachant que nous aussi, nous pouvons tomber. Alors, le Seigneur Jésus nous dit qu'en tant que chrétien, il ne faut pas faire tomber les autres et que c'est très grave de les éloigner de Dieu. Il nous dit aussi de nous préoccuper du péché dans le corps de Christ avec d'autres croyants. Mais pourquoi? Parce que le but bien sûr, c'est de pardonner celui qui se repent. Le but ultime est bien sûr de pardonner celui qui s'est repenti. Et le texte nous parle de, même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée. Alors vous me direz, 7 fois, ça fait quand même beaucoup dans une journée. On pourrait penser, est-ce que cette personne est vraiment sérieuse dans sa repentance? Mais en fait, ce n'est pas notre problème. Nous sommes appelés à pardonner. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 21, Pierre posait à Jésus la question de combien de fois on devait pardonner. Et le Seigneur avait dit 70 fois, 7 fois, parce que Pierre s'imaginait que si on pardonnait 7 fois, c'était vraiment le summum de la grâce, le summum de la miséricorde. Et Jésus, en disant 70 fois, 7 fois, signale qu'en fait, il n'y a pas de limite au pardon. Alors bien sûr, on pourrait se dire, mais pourquoi pardonner? Alors, je vous suggérerais bien sûr 3 choses. On pardonne parce que, d'abord, Dieu nous a pardonné bien plus que nous pardonnerons jamais aux autres. En Christ, il nous a pardonné. Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous écrit au chapitre 4 et au verset 32, « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. » Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et dans l'évangile, il y a cette histoire du serviteur qui avait une énorme dette et le roi lui avait pardonné sa dette. Puis après, le roi avait appris que ce serviteur avait refusé d'effacer la petite dette qu'un autre serviteur avait en son égard. Et donc le roi avait condamné ce serviteur qui n'avait pas compris la miséricorde et la grâce. Christ nous a pardonné toutes nos fautes et nos péchés par son sacrifice à la croix. Dieu nous reçoit et il nous demande à notre tour de pardonner. Et d'ailleurs, la deuxième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est que justement notre refus de pardonner montre que notre cœur n'a pas bien compris la grâce de Christ, n'a pas reçu la grâce de Christ. Dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 14 et 15, on lit que « Si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste nous pardonnera aussi. Mais si on ne pardonne pas aux hommes, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. » Avez-vous compris la grâce que Dieu vous a accordée? Si vous l'avez véritablement compris, alors vous savez que votre dette vis-à-vis de Dieu était énorme, immense. Il vous a pardonné et vous demande en retour, vous qui avez reçu la grâce, de l'accorder aux autres. Et je dirais que la troisième raison, bien sûr il y en a d'autres de raisons, mais pour moi c'est les plus importantes. La troisième raison pour pardonner, c'est que nous sommes appelés à faire confiance à la souveraineté et à la justice de Dieu. Dans Romains au chapitre 12 au verset 19, l'apôtre Paul nous dit « Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu. » L'apôtre Paul nous dit de faire du bien à nos ennemis, de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais au contraire d'être vainqueurs du mal par le bien. Pardonner,
c'est dire à Dieu, Seigneur, de mon côté, moi, je ne veux pas continuer à être en colère et à vouloir du mal à cette personne pour le mal qu'elle m'a fait. Je te fais confiance, Seigneur, et je pardonne et je me remets totalement à ta justice et à ta souveraineté. C'est toi qui connais toutes choses et qui vas faire ce qui est bien. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, mais c'est vraiment très difficile ce que tu demandes. C'est vraiment très difficile, Seigneur Jésus, ce que tu demandes. Et c'est probablement la réaction des disciples. Parce qu'ils demandent, à la suite de cela, verset 5 du chapitre 17 de l'évangile de Luc, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Augmente notre foi. De pardonner, c'est difficile. Ils disent, on n'a pas assez de foi pour le faire, on aimerait avoir plus de foi. Et le Seigneur répond quelque chose d'assez curieux. Il leur dit, si vous aviez la foi, même aussi petite une graine de moutarde. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? C'est pas une question de grandeur de foi. C'est une question d'avoir la véritable foi. Et si vous avez la véritable foi, même si elle est toute petite, eh bien, parce qu'elle est placée en Dieu, parce qu'elle est placée en Jésus, alors cette foi va pouvoir accomplir des choses absolument extraordinaires. La foi, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. La foi, c'est de faire confiance en Dieu. Et vous pouvez avoir la plus grande foi au monde. Si vous ne faites pas confiance à la bonne personne, alors cette foi mal placée ne sert à rien et même elle vous perd. Par exemple, les athées peuvent avoir toute la foi du monde en la non-existence de Dieu. Cela ne leur servira pas à grand-chose lorsqu'ils auront à rendre compte de leur vie. Notre foi placée en Jésus, même si elle est toute petite, si elle est exercée selon la volonté de Dieu, peut voir des miracles. Donc la graine de moutarde, c'était une façon proverbiale à l'époque de parler de quelque chose de très petit. Et donc, le Seigneur Jésus dit, même une toute petite foi, comme la graine de moutarde, si vous dites avec cette petite foi de un mûrier de se déplacer, eh bien, ses racines vont s'arracher du sol et peuvent aller se planter dans la mer. Alors, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler d'un arbre qui était aussi proverbial à l'époque. Les rabbins pensaient que les racines de cet arbre pouvaient demeurer en terre pendant 600 ans. Donc, c'était un arbre qui était vraiment fermement enraciné. Et même un arbre aussi bien enraciné, le Seigneur Jésus dit par la foi, si vous lui dites de s'arracher, d'aller se planter dans la mer, cela s'accomplira. Alors la question, bien sûr, pour chacun d'entre nous, c'est en qui avons-nous placé notre foi? Si c'est en nous-mêmes, elle est très mal placée. Si c'est dans le Seigneur Jésus, alors notre foi, même petite, est une foi qui peut faire de grandes choses selon la volonté de Dieu. Puis le Seigneur Jésus continue en nous disant que nous devons non seulement avoir une foi bien placée, mais aussi une foi qui nous amène à servir de façon humble. Parce que le danger pour nous tous, c'est de tomber dans un orgueil spirituel. On a bien compris les choses, on a placé notre confiance dans la bonne personne, on est connu de Dieu et de s'imaginer d'un seul coup que tout nous est dû. Et donc le Seigneur Jésus nous demande de nous considérer comme des esclaves. Ne nous appartenons plus, mais nous appartenons maintenant à Dieu. Et les tâches que nous accomplissons ont été déterminées d'avance par Dieu pour que nous les faisions. Hein, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 10. Et c'est avec les forces que Dieu nous donne que nous agissons même. Donc, puisque c'est selon ce qu'il nous dit de faire, avec les forces qu'il nous donne, en quoi est-ce que nous aurions raison de demander quoi que ce soit à Dieu? Le rabbin Johanna Rakai a écrit que ce proverbe, c'est devenu un proverbe ancien, en fait, ce qu'il a écrit. Il comprenait bien cette idée, ce rabbin. Il disait, « Si tu as acquis beaucoup de connaissances sur la Torah, ne proclame pas ta propre valeur, car c'est pour un tel but que tu as été créé. » Nous avons été créés pour servir Dieu, pour connaître Dieu, mais aussi pour lui obéir. Et de le faire, eh bien de le faire avec fidélité, voilà à quoi nous sommes appelés. Et lorsque nous avons fait ce qui nous a été demandé, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. En fait, il y a deux extrêmes qu'il faut éviter. Faire les choses que Dieu nous demande de faire parce qu'on le doit et le faire sans joie. Ou l'autre extrême, faire les choses pour obtenir une récompense. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous promet des récompenses, mais ça ne devrait pas être ce qui nous motive. La bonne attitude, nous la trouvons dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 6 et 7. L'apôtre nous dit « Agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. » Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Nous sommes appelés à vivre devant Dieu et à faire les choses de bon cœur. Le Seigneur Jésus nous a dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Alors dans ce texte que nous voyons ensemble ce matin, Jésus recommande à ses disciples plusieurs choses. Pour récapituler, il nous dit « Attention de ne pas causer la chute des plus faibles. Attention de ne pas être la cause du péché. » Deuxièmement, il nous dit de ne pas permettre le péché chez les autres non plus, de reprendre le croyant qui a péché. Il nous dit de le faire, la Bible nous dit de le faire dans l'amour et avec un esprit de douceur. Et le but de reprendre un croyant qui a péché, c'est afin que celui-ci puisse être pardonné, que nous puissions lui accorder ce pardon. Nous devons faire confiance en Dieu. Notre rôle à nous, c'est de pardonner. Dieu sait toutes choses et fera ce qui est juste. Puis, le Seigneur Jésus nous dit que notre foi doit être bien placée et que le plus important n'est pas la grandeur de la foi, mais la grandeur de celui en qui la foi est placée. Et il nous appelle à servir de façon humble, de servir Dieu et les autres, parce qu'il nous le demande. Prions ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce texte. Merci pour les recommandations que tu as données à tes disciples. Et Seigneur, donne-nous de les comprendre, de les appliquer aussi à nos vies. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous sommes des occasions de chute spirituelle pour les autres. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être de bons exemples. Aide-nous à ne pas utiliser notre liberté en Christ de telle façon à ce que cela cause une occasion de chute pour ceux qui sont mal affermis en toi. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où nous sommes des mauvais exemples. Seigneur, garde-nous d'enseigner aussi des choses qui ne sont pas justes. Fonde-nous dans ta parole. Seigneur, tu vois qu'il y aura dans notre vie, dans ce monde, des moments où il y aura des accroches, des désaccords avec d'autres croyants. Seigneur, si quelqu'un a péché contre nous, donne-nous de pouvoir lui montrer sa faute, de le faire dans l'amour, de le faire avec un esprit de douceur. Mais Seigneur, de le faire pour notre bien, pour le bien de la communauté, mais surtout, surtout aussi pour le bien de notre frère qui a fauté. Seigneur, lorsque celui-ci se repent de sa faute, donne-nous de lui accorder de tout cœur. Seigneur, tu nous demandes de le faire, parce que toi, tu nous as pardonné en premier, et tellement plus que ce que nous aurons jamais à pardonner aux autres. Et puis Seigneur, donne-nous d'avoir une foi qui est bien placée, une foi qui est placée non pas en nos capacités, mais placée en toi. C'est toi qui as tout pouvoir. Merci parce que cette foi placée en toi est suffisante, même si elle est toute petite, elle est suffisante d'accomplir tout ce que ta volonté a décrété. Alors Seigneur, nous nous remettons à toi. Donne-nous d'être à ton service. Donne-nous d'œuvrer de façon humble, de façon juste, pour la gloire de ton royaume, pour ta gloire, Dieu, et aussi pour le bien de nos semblables. Seigneur, c'est notre prière aujourd'hui, dans ces temps si particuliers. Aide-nous à vraiment dans ce monde être une aide, dans ce monde qui se perd, être des messagers de la bonne nouvelle. Nous le prions en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.